Chapitre 3. Monsieur Feller montra beaucoup d'activité après la mort de son gendre. On le vit en habit noir conduire le deuil avec le neveu du défunt. Le cortège suivait lentement les boulevards extérieurs pour se rendre au cimetière Montparnasse où Monsieur Haviland, adoptant la patrie de sa femme, avait acheté pour elle et pour lui une concession à perpétuité. M. Feller, peu accoutumé à se lever matin, avait le visage pâle et bouffi d'insomnie. Ses yeux rougis et ses paupières turgides sous les lunettes d'écaille achevaient de donner à sa physionomie une expression opportune de fatigue et de mélancolie. Grâce à l'embonpoint de son corps albumineux, il avait du poids et marchait gravement. Ayant conscience de cet avantage, il ne perdait rien de son volume ni de sa masse et restait considérable. Par un étrange retour de la fortune, son chapeau, bien différent de celui qu'il avait posé jadis sur le guéridon du salon dans l'hôtel Haviland, était vierge et lustré, avec une coiffe d'une blancheur immaculée. Il était sur son bras comme un mortier sur son affût et semblait pointer contre le corbillard. Les bottes de M. Feller ne craquaient pas avec force comme de coutume. Il en sortait à chaque pas une sorte de soupir, comme si deux génies funéraires y eussent été cachés. Devant l'édicule gothique sous lequel les ouvriers descendaient le cercueil, en retenant à demi un « Oh, hé !» et en crachant dans leurs paumes brûlées par le frottement des cordes, M. Feller resta immobile, en regardant le ciel par-dessus ses lunettes avec une expression de spiritualité. On comprenait, à le voir ainsi, que sa pensée ne s'arrêtait pas devant les portes de bronze du tombeau, mais qu'elle s'élevait dans les régions éthérées sur les ailes de la philosophie la plus distinguée. Il planait ainsi dans les domaines de l'idéalisme et semblait lui-même affranchi de l'existence quand une petite toux lui rappela qu'il vivait et qu'il avait la poitrine grasse. Derrière lui, le dominant de toute la tête, quelques Anglaises à poils blonds et à grande forme se tenaient droits dans leurs habits bien coupés. Deux hommes d'affaires, commensaux de la brasserie de Colmar et partenaires habituels de M. de Feller au billard et au domino, chuchotaient à part. Le groupe des gens de maison, tassé dans une contre-allée au flanc de l'édicule, découpait dans la lumière crue les favoris des valets de chambre, les bonnets à rubans des cuisinières, accusait des rondeurs de coudes et des silhouettes de pantalons noirs trop longs, retombant à grands plis sur les bottes. Après l'inhumation, M. Feller reçut les compliments de condoléances des assistants dans l'attitude d'un homme courageux mais accablé. Il remercia les personnes qui avaient bien voulu s'associer à lui pour rendre les derniers devoirs aux défunts. Il feignait de revoir avec satisfaction chacune des personnes présentes, bien qu'il n'en connût pas une seule. Il pressait la main à chacune avec une énergie qui voulait vraiment dire « merci, merci, ou j'aurais du courage, je saurais me contenir ». Quand ce fut le tour de ses deux vieux camarades de café, il ne tendit au contraire que le bout des doigts, et, fronçant les sourcils, il exprima soudain une tristesse sauvage et répulsive. Il craignait qu'il lui mît la main sur l'épaule en l'appelant « ma pauvre vieille ». Il renouvela plusieurs fois ses remerciements collectifs et les adressa finalement à un groupe de personnes qui venaient d'enterrer un juge de paix et qui ne surent jamais ce que leur voulait ce monsieur en habit noir. Comme il lui était impossible d'établir une ligne de démarcation entre les amis de son gendre et le reste des hommes, il eut fait les honneurs de tous les enterrements de la journée, si les divers cortèges se fussent écoulés devant lui sans interruption. À compter de ce jour, il ne quitta plus ni son habit noir, ni sa mine stoïque et morne. Il venait tous les jours à l'hôtel Havilland, y déjeunait, y dînait. Après le dîner, il mettait la main sur la tête de Georges et s'écriait avec une espèce de sanglot « Oh, cet enfant-là m'intéresse !» À la brasserie de Colmar, où il faisait tous les soirs sa partie de billard, il s'écriait « Oh, ce n'est pas seulement un gendre que j'ai perdu, c'est un fils et un gentleman !» Julie, la femme de chambre de Madame Havilland, avait entendu le cri étrange poussé par sa maîtresse à l'apparition du médecin. Car le lendemain, on en parlait mystérieusement chez l'épicier et chez le boucher. La nouvelle que l'Anglais du boulevard Latour-Maubourg avait été empoisonné et que sa femme était complice du crime fut répandue et gagna en peu de jours les quartiers voisins. Le docteur Hersant, qui demeurait dans la rue Saint-Dominique, fut très surpris d'entendre, dès le lundi suivant, sa femme lui parlait de ce bruit de crime comme d'un bruit public. Hersant, que l'habitude des sciences et la pratique de la médecine avait habitué à beaucoup de méthodes dans de telles recherches, n'admettait pas qu'en l'état des choses on pût soupçonner Madame Havilland. Il répondit à sa femme qu'il ne fallait pas, en médecine légale, ramasser les propos des commères. Toutefois, l'affection à laquelle M. Havilland avait succombé n'était pas, selon lui, assez caractérisée par le procès-verbal qu'il avait signé avec les médecins consultants. Il n'était pas sans se reprocher en lui-même quelque légèreté à cet égard. Se sentant coupable de négligence, il souhaitait que l'affaire n'eût pas de suite et il comptait qu'elle n'en aurait pas. Longuemare, retenu à son hôpital par la visite du matin, qui à cause d'une épidémie typhique avait duré plus longtemps qu'à l'ordinaire, n'arriva au cimetière Montparnasse qu'après l'inhumation de M. Havilland. Tout ce qu'il put voir de la cérémonie fut le profil énergique et sombre de M. Feller, emporté hors du cimetière par deux chevaux noirs dans une voiture mise à son service par l'administration des pompes funèbres. Rebroussant chemin à cette vue, il passait entre les urnes et les sabliers sculptés sur les piliers de la grille d'entrée quand il fut arrêté par un petit homme vif qui le traita de revenant, de spectre, de fantôme, avec beaucoup de gaieté, et qui entonna d'une belle voix grave l'air de Robert. Non, de qui reposer, c'était son ancien camarade de classe, Bouteiller, qui, célèbre au lycée par son inaptitude aux sciences comme aux lettres, était devenu reporter dans un grand journal. Il venait d'entendre approximativement 3 discours prononcé sur la tombe d'un membre de l'Institut. S'attachant au bras de Longuemare, « Oh, bon, lui dit-il, tu dînes avec moi, allez ce soir, chez Bréval. » Pendant le dîner, Longuemare, profondément agité, mais cachant, selon son habitude, son émotion sous des formes plaisantes, traita plusieurs questions relatives à l'amour et aux femmes, avec des développements scientifiques relevés de calembours transcendants. Il dînait au champagne frappé. Bouteiller ne dînait pas autrement. Le champagne était une nécessité professionnelle qu'il subissait. Au reste, il était fort occupé. Il passait en chemin de fer des heures de sa vie qui eussent été plus belles sans cela. Il inaugurait les statues dans toutes les villes de France, suivait le président de la République dans les départements inondés, assistait au mariage aristocratique, entendait des conférences sur le phylloxéra, voyait tout et était le moins curieux des hommes. Il n'y avait qu'un lieu dans le monde qui l'intéressât, c'était Chatou, où il avait une maisonnette et une barque. Il ne se souciait que de sa barque et de sa maisonnette, et il devait s'occuper du monde entier. Une usine ne pouvait brûler sans lui. Longuemar en vint naturellement à parler de M. Haviland, de ses habitudes singulières, de sa mort, et en thèse générale, de l'empoisonnement par la belladone. Pendant ce temps, Bouteiller décrivait sa barque, où il s'entendait à merveille. Vers 10 heures, Bouteiller dit « Oh bonbon, je cours au journal, attends-moi une seconde au café de Suède, j'y ai un rendez-vous. » À 11 heures, ils fumaient tous deux devant une table de zinc, dans le bruit et la lumière du boulevard. Bouteiller disait « Vois-tu, bonbon, un aviron un peu court, qu'on sent bien dans la main, et surtout bien tranchant du bout, et qui coupe l'eau comme un couteau. » Un jeune faubourien en blouse et en casquette s'arrêta devant eux et dit à Bouteiller « Non, c'est pas pour cette nuit. » Bouteiller lui donna 40 sous et le renvoya. Il n'avait pas l'air satisfait. « Bah, un écho que j'avais fait d'avance et qui restera sur le marbre. » Puis, pour éclaircir la chose à son ami, il ajouta « Ce jeune voyou que tu as vu sait comment les choses se pratiquent à la roquette. Il vient de me dire que l'assassin de la rue du Château des Rentiers ne sera pas exécuté cette nuit. À propos, toi qui es médecin, dis-moi donc un peu si on souffre encore après qu'on a eu le cou coupé. » « Oh, rien de plus facile que te renseigner là-dessus, » répondit Longuemar. Et il commença à donner des explications. La vie étant une quantité, comme l'a dit Buffon, elle est susceptible d'augmentation ou de diminution. Le nœud vital de Florence est une ânerie. Suis-moi bien. Si je puis dire avec Bichat que la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort, je dois ajouter que ces forces résistent plus ou moins longtemps à la dissociation finale. La décollation produit une violente syncope et abolit la sensibilité dans des circonstances qu'on peut considérer comme définitives. Mais la vie musculaire persiste. Il ne faut pas confondre... Bouteiller, désespéré, l'arrêta. Non, j'aime mieux d'avertir tout de suite. Ton explication serait trop longue et je n'y comprends absolument rien. D'ailleurs, la science m'a toujours paru terriblement obscure. Il y a des questions comme celle de l'immortalité de l'âme, par exemple, et celle de l'existence de Dieu qui sont si ardues. Heureusement que Dieu n'est pas une actualité. À propos, comment nommes-tu l'anglais que tu as enterré aujourd'hui ? Il y a un écho, parbleu, dans ce que tu m'as conté, à la condition de broder un peu. Tu disais donc... Groult, ayant ordonné rudement à sa femme de lui faire son sac, partit pour Avranches, où il avait, disait-il, des affaires à régler. Et dans le fait, il venait d'hériter d'un petit champ dans un endroit voisin. Il descendit dans une auberge du faubourg, à l'enseigne du Cheval Rouge. On le vit, en compagnie de fermiers et d'éleveurs, verser à la mode du pays des carafons entiers d'eau-de-vie dans sa tasse de café. Il était plus gai, plus ouvert que d'habitude, parlait volontiers, acceptait des politesses et offrait des tournées. Le mercredi, il prit le train qui le mit à Granville, à la tombée du jour, par un affreux temps. Un grain passait, comme disent les marins. Il pleuvait, un vent furieux fouettait les lanternes et gémissait dans les allées. Il se dirigea vers la vieille ville et prit une rue étroite, tortueuse, montante, pleine d'une odeur de marée. Son pied gauche faisait, pour suivre l'autre, le mouvement d'une faux dans les blés, et tout son corps se balançait à chaque pas. Il avançait très vite dans l'ombre, faisait jaillir sous ses pieds l'eau des flaques, grognait et jurait. Il entra sans hésiter dans une misérable boutique d'épicier, ornée de deux bocaux de sucreries, derrière les petites vitres verdâtres de la devanture, et meublée d'un lit à courtines de colonnade rouge, enfoncé sous l'escalier de bois. La terre battue qui formait le sol était détrempée par endroits et portait des empreintes de semelles ferrées. Il ne vit personne, et sans s'attarder à attendre l'épicier, il traversa la boutique, qui était la seule entrée de toute la maison. Il monta à l'escalier et frappa à la porte du second étage, à l'endroit où la rampe s'arrêtait. Un petit vieillard, éclairé sous le menton par sa chandelle, examina le visiteur à travers la porte entrebâillée et le fit entrer dans une chambre encombrée de liasses de papier déchirés, de registres écornés, de cartons bâillants et crevés, qui laissait échapper des marges de feuilles marquées de vieux timbres, tout cela pressé, amoncelé et lourd. Sans doute des souris couraient derrière ces tas de papier et de parchemin, car on entendait des craquements, des froissements tout proches au milieu du bruit lointain et continu du vent dans les cheminées et de la pluie sur les lamelles de pierre de la toiture. Une couchette maigre et débraillée laissait apercevoir, dans un coin d'ombre, sous des loques pendues, les misères de sa nudité. La poussière revêtait tous les objets d'une teinte uniforme, et le visage même du locataire semblait enduit de cette couche grise. Il n'avait plus de dents, et sa langue était sans cesse occupée à se mouvoir contre ses lèvres molles. Quant à ses prunelles d'un vert pâle, elles faisaient songer par leur agilité à ces souris qu'on entendait grignoter dans le mur. « Eh bien, lui dit Groult en s'asseyant, vous voulez me parler ? Ben voilà. Qu'y a-t-il de nouveau ?» L'autre passa doucement sa langue sur ses gencives et dit avec un accent nasillard et traînant,
« Je suis heureux de vous voir, mon bon monsieur Groult. Il y a du nouveau, si l'on veut, et il n'y en a pas, si l'on veut. C'est comme on l'entendra. »
Il caressait avec douceur, en parlant, son collier de barbe grise et semblait compter ses mots sur ses poils. Groult interrompit par un grognement d'impatience.
« Eh, mon Dieu, dit l'autre, quand vous êtes pressé, aussi vrai que je me nomme Tancrède, Ruline, et que vous vous nommez Désiré Groult, je suis disposé à vous instruire de tout ce qui peut vous intéresser. Le père Ruline est connu sur toute la côte, depuis la pointe de Carole jusqu'aux pêcheries de Bréal. Les grands comme les petits s'adressent à moi. Je fais les affaires de tous ces messieurs. Pas plus tard qu'hier, j'ai recouvré une créance pour le compte de M. de Tancarville. Ah, mon bon monsieur, c'était une créance quasiment perdue. M. de Tancarville m'a dit, ce sont ses propres paroles, hein. Ruline, je voulais allumer une pipe avec. Et tenez, la semaine passée, Mme la baronne du Bosc-Marienville...
Groult l'interrompit en frappant un coup de poing sur la table. Ruline remua un moment les lèvres sans parler. Puis il reprit de sa voix traînante et nasillarde.
« Venons-en, s'il vous plaît, à votre affaire. Je suis à vos ordres et nous ne pouvons manquer de nous entendre. Je vous ai fourni l'acte de naissance d'un sieur Samuel Ewart et différents papiers propres à établir l'identité de cette personne. Je vous ai passé ces actes de la main à la main, mon bon monsieur. » Sans préjuger de l'usage que vous vouliez en faire. Je n'ai agi en cela que dans le but de vous être utile. »
Et après, fit Groult en fronçant les sourcils.
Espérez un peu,
dit le Normand dans son patois.
Espérez.
Il s'humecta les lèvres et continua.
Je n'ai pas voulu chercher quelle sorte d'intérêt vous aviez à vous procurer les papiers de Samuel Hayward. Je suis discret, mon bon monsieur. La discrétion est une des vertus cardinales de mon petit métier. Mais supposez que Samuel Hayward soit mort.
Ben parbleu, s'écria Gould, s'il est mort, il ne reviendra plus. Il éclata de rire.
Espérez, dit le vieillard, en contemplant les épingles soigneusement piquées à la manche de son habit. Espérez. Supposons qu'une personne possède un extrait légalisé de son acte de décès, de l'acte de décès de Samuel Hayward, mort à Jersey, sans postérité, et que le détenteur de cette pièce puisse la produire en temps utile.
Gould ouvrit ses deux énormes mains. Il était exaspéré de la trahison de son vieux complice, qui semblait vouloir maintenant rendre inutiles les pièces qui lui avaient procurées à grands frais. « Et pas de finesse, dit-il rudement, allez, marchez droit. » Les prunelles du bonhomme clignaient avec inquiétude, mais sa voix était très calme quand il reprit
« Oh, tout ce que je vous en dis n'est que pour vous servir. Mais je vois que je vous contrarie. Bon, ben restons-en là et quittons-nous bons amis. »
Il se leva et alla prendre sur un méchant secrétaire le noyer un pot à eau écuelé dans lequel trompait une botte de myosotis.
« Voyez, dit-il en posant le pot sur la table, j'en aurai pas toute la saison. Chaque fois que je passe vers Carteret, là-bas sur la côte, je cueille des myosotis dans le fossé qui borde la propriété de Monsieur de l'Aigle. J'en tire une botte que j'entortille dans mon mouchoir. »
Il passait doucement la main sur les fleurettes bleues pour faire tomber les corolles fanées.
« Pourvu,
ajouta-t-il,
qu'on ait le soin de tirer les racines avec les tiges, on est certain de voir cette plante-là vivre dans l'eau comme en pleine terre. Eh, mon Dieu, je n'ai ni femme, ni enfant, ni chien, ni chat. Il faut bien s'attacher à quelque chose. Moi, j'aime les fleurs. »
Gould ne l'écoutait pas, il se mordait les lèvres et se rongeait les ongles. Puis il fit un soubresaut et s'écria « Vous avez l'acte de décès de Samuel Hayward, alors donnez-le-moi, il me le faut, je le veux !» Pauline jeta un coup d'œil furtif sur le secrétaire de Noyer, et en levant délicatement le pot de myosotis, il le replaça sur le meuble. Puis il s'assit et s'humecta les lèvres.
« Espérez, dit-il, espérez. J'ai cet acte et je ne l'ai pas. Il se peut que je puisse le produire, comme il se peut que je ne l'ai pas à ma disposition. Mais raisonnons comme s'il m'était loisible de me le procurer. » J'ai appris bien tardivement que M. Haviland, au service de qui vous êtes depuis bien des années, n'est-il pas vrai? Recherchez ce même Samuel Hayward. Il est bien naturel que je songe à l'obliger à son tour, mon bon monsieur. Il sera bien content d'avoir des nouvelles de ce pauvre Samuel, décédé si malheureusement à Jersey.
Rulin s'arrêta pour observer son homme et voir s'il ne l'avait pas trop exaspéré. Mais Gould répondit tranquillement « Si vous vouliez envoyer l'acte à mon maître, il fallait vous dépêcher davantage. Il est mort à l'heure qu'il est, ou peu s'en faut. » L'homme d'affaires se fit avec sa langue une fluxion sur la joue gauche et fixa ses yeux verts sur le domestique avec tout l'empire d'une évidente perspicacité. Gould en ressentit un malaise très sensible.
« Ce pauvre monsieur Haviland, ce que c'est que nous. Mais comme vous êtes certain, mon bon monsieur, de la mort de votre maître, il y a donc Jésus, des malades dont on peut connaître ainsi le terme à l'avance. Hélas, il faut revenir à notre affaire. Monsieur Haviland laisse des héritiers qui seront certainement bien contents d'apprendre ce que feu Samuel Ewart est devenu. Je n'ai qu'un désir, mon bon monsieur, c'est celui d'obliger le monde.
Gould était redevenu tranquille. La patte d'oie marquée sur sa tempe avait une sorte de sourire tout à fait malin. « Mais, dit-il, les héritiers à Villard ne vous donneront pas deux sous de votre chiffon de papier. Vous seriez vraiment bien bon de le leur envoyer. Quel avantage y auriez-vous ? Allez, donnez-le-moi. Je serai capable même de vous le payer quelque chose un peu plus tard.
Doucement. Contez-moi votre petite affaire. Le bonhomme Reuline est discret. » « Quand je saurai de quoi il retourne, j'aviserai. »«
Je n'ai rien à vous conter. »«
Eh, mon Dieu, je sais ce que c'est. Vous êtes timide, mais je vous aiderai. » Feu Samuel Ewart est couché sur le testament de ce pauvre monsieur Havilland pour une somme assez ronde, muni comme vous l'êtes grâce à moi, des papiers qui établissent l'identité du défunt légataire. Vous trouverez un jeune homme de bonne volonté qui consentira, moyennant une bonne prime, à se présenter chez le notaire de feu M. Havilland comme Samuel Ewart lui-même et à toucher en cette qualité la somme à lui laisser. Eh mon Dieu, ne vous défendez pas. Il ne faut pas laisser l'argent dormir. Et puisque ce pauvre Samuel a perdu le goût du pain, mais mon bon monsieur Gould, qui vous répondra de la probité de ce Samuel Ewart ? S'il gardait tout pour lui, ce serait bien indélicat de sa part, mais bien déplaisant pour vous. Il faut songer à tout. On voit tant de malhonnêteté en ce bas monde. Avisez, soignez prudent. Je ne veux que votre bien.
Le vieil homme passa entre ses lèvres la fine pointe de sa langue de lézard, et continua.
Je vous avertis, un homme averti en vaut deux. Je connais la personne qui possède l'acte de décès de Samuel Ewart. Cette personne n'est ni un Turc ni un Juif. Elle ne vous veut pas de mal, elle est raisonnable. Voici ce que je suis autorisé à vous dire de sa part. Touchez le legs de Samuel Ewart et quand vous l'aurez touché, offrez, par mon intermédiaire, une part raisonnable à cette personne. Non pas une part de la moitié, non, ce serait trop. Il ne faut pas pressurer les gens, mais, comme qui dirait, une prime de 50%. Sans quoi, la personne agissant contrairement à mes conseils rendra public l'acte qu'elle possède, ce qui serait bien fâcheux pour vous et me ferait beaucoup de peine.
Gould s'était reculé, ramassé dans l'ombre pendant ce long propos. Il sauta sur l'homme, le prit à la gorge et lui cria « Donne l'acte, vieux juif, ou je t'étrangle !» Il était furieux de rencontrer un obstacle qu'il n'avait pas prévu. Reline, jaune et maigre, sec et semblant rendre l'âme à chaque souffle, se raidit et résista avec le muscle et la souplesse d'un homme exercé par de fréquentes querelles avec les marins qui lui portaient leur montre en gage pour aller boire. Cette résistance augmenta la fureur de Gould, qui vit rouge et tira son moustache. C'était un méchant couteau pointu, dont la lame se ramenait sur un manche de buis cerclé d'anneaux de cuivre. Gould l'avait sans cesse dans la main pour son usage personnel et le service d'autrui. Le vieillard, glissant pour se dégager, alla tomber contre l'angle de la cheminée qui lui fit une blessure au front. Gould, tombé avec lui sans le lâcher, vit de très près d'abord une éraflure blanche, puis le sang qui coulait abondamment. Ce sang et les cris de Reline lui firent faire le coup de la peur. Avec une lucidité singulière, il choisit sa place et enfonça la lame de couteau dans la poitrine du vieillard. Puis, pendant une minute qui lui parut infiniment prolongée, il ne remarqua rien. L'homme était là, sous son poing, roulant des yeux verts, la bouche ouverte et résistant de tous ses muscles. Puis, après cette minute-là, enfin, il lâcha prise, s'affaissa, ferma et rouvrit convulsivement les mains comme pour saisir quelque chose, et ne bougea plus. Alors, ses traits n'exprimaient plus rien de violent. Il avait l'air de sourire malicieusement dans son sommeil. Gould fit sauter avec la pointe de son eustache la serrure du secrétaire de Noyer et se mit à fouiller. Il remuait des papiers. La flamme de la chandelle presque finie dansait et les souris faisaient craquer le plancher au milieu du silence survenu. Il fouillait les dossiers, les liasses, les chemises, les layettes et jetait tous les papiers sur le cadavre. Une grande flamme envahit tout d'un coup la chambre. C'était le papier roulé à la base de la chandelle qui s'enflammait. Il fouillait les enveloppes, les cartons, les vieux buvards, les serviettes et les portefeuilles de cuir. Enfin, il trouva un papier timbré qu'il fourra dans sa poche en poussant un grand soupir. Il souffla le chandelier qui fumait comme un tampon et dont la flamme, surnourrie de suif fondu, se projeta sur son visage et lui brûla les cils avant de s'éteindre. Puis, ayant pris sa casquette à tâtons, il sortit. Il hésita un moment sur le palier, monta sans bruit à l'échelle du grenier et regarda par la lucarne qui donnait sur la rue. Il vit, au reflet de la lumière sur le pavé mouillé, que la boutique de l'épicier n'était pas fermée. Il se blottit derrière des caisses vides et attendit. Il attendit longtemps, les jarrets tremblants, la gorge sèche, les tempes serrées, frissonnant au moindre bruit. Enfin, quand il jugea la maison et la rue bien endormies, il noua à la poulie qui surplombait la lucarne une corde à crochet dont l'épicier se servait pour élever les ballots au grenier, et descendit dans la rue avec une agilité de singe. Hélène, sortie de convalescence, n'avait plus qu'une idée, posséder René, le tenir, ne plus le quitter. Il serait son refuge, sa force. Elle comptait bien que les épouvantes ne l'atteindraient plus quand ils seraient tous deux enfermés dans la même chambre. Elle l'épouserait, elle vivrait doucement, chaudement, bien abritée, entre son mari et son père. Tout son passé d'innocence tenait à ces deux hommes. Non, 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 les mauvais rêves ne se glisseraient plus sur l'oreiller et qu'elle se ferait avec tant d'amour. Elle ne savait rien des bruits qui grondaient sourdement contre elle dans le quartier. Quant au testament de M. Haviland, cet acte, ouvert et lu devant les héritiers par le notaire, ne donna lieu à aucune difficulté. Le défunt laissait en usufruit à Hélène Haviland, née Feller, ses biens, meubles et immeubles, lesquels devaient revenir après le décès de l'usufruitière à Georges Haviland ou à ses héritiers directs, s'il en venait à naître. Gould était porté sur le testament pour une rente annuelle de 1200 francs. Le testataire souhaitait expressément que la fortune distincte, claire et liquide de Georges Haviland, mineur, administrée par lui, le fût à son défaut par son vieil honorable ami M. Charles Simpson, banquier à Paris. Mais M. Charles Simpson, atteint d'une affection de la moelle épinière à la suite d'une chute de cheval, ne put accepter la gestion que son ami défunt voulait qu'on lui confiât. M. Feller, ayant appris cette difficulté, imagina de se faire agréer au lieu et place de M. Simpson. Il témoigna, en diverses circonstances, de la plus vive sollicitude pour la fortune du mineur. Un jour, après le déjeuner, quand on lui apporta le cognac et des cigares, il dit à sa fille, Cet enfant-là m'intéresse comme s'il était mon propre fils. C'est plus fort que moi, je me sens pour lui des entrailles de père. Ce sentiment-là ne se commande pas. » Ayant mis une pyramide de sucre dans son café, il reprit. « Je ne sais pas ce que je ne me ferai pas pour cet enfant. » Il contempla la pyramide de sucre qui s'effondrait dans la tasse et sourit avec mélancolie à cet écroulement, comme si c'était celui de l'espérance, si amoureusement conçu d'être utile à George Haviland. Puis il avala le sirop formé par la pyramide éboulée et sourit de nouveau. Hélène le regardait avec inquiétude. Elle devinait bien ce qu'il allait lui proposer. Il but un verre de cognac et dit « Ah, ce pauvre Simpson est tombé de cheval d'une façon bien malheureuse. Ce que c'est que de nous ? Il n'y a pas un mois qu'il était vigoureux et plein d'intelligence, et le voilà devenu idiot. Quand je dis qu'il était plein d'intelligence, j'exagère. Il n'a jamais su mener grandement les affaires, c'était un esprit timide. Il ne risquait pas. » Et M. Feller alluma son cigare en se regorgeant. Ah, il risquait, lui. Hélène, visiblement gênée, se taisait. Son père fumait en silence et, vêtu de noir, correct, massif, semblable dans la fumée à un héros dans les nuages, il figurait bien l'apothéose du financier. Il reprit. « Ce Simpson était très froid, très sec. Je me demande s'il aurait jamais eu peur pour son pupille, notre George, à l'intérêt vraiment paternel. » Puis, incapable de se contenir, il alla droit à ce qu'il voulait. Il dicta lui-même à Hélène une lettre par laquelle elle le proposait aux membres du conseil de famille comme tuteur de George Haviland. Debout, la tête haute, l'index tourné en signe de commandement vers la page commencée, « Écris, mon enfant, écris !» disait-il. « J'ai l'assurance que ce choix aurait reçu l'approbation de mon mari. » Elle hésita devant cet énorme mensonge. Mais, levant les yeux sur son père, elle lui vit un front si tranquille, un air si convaincu, une si digne figure, qu'elle écrivit docilement ce qu'il dictait. Monsieur Feller, planant dans les régions sereines de la paternité adoptive, rayonnait d'un pur éclat. Il alla mettre lui-même la lettre à la poste. Hélène, restée seule, eut honte et peur d'avoir trahi le mort. Elle pensa, s'il revenait. Alors elle crut le voir et elle le vit avec une effroyable netteté. Son visage, qui n'exprimait rien, laissait tout entier le mystère de sa pensée. Elle savait bien qu'elle ne le voyait qu'en imagination, mais elle ne pouvait pas ne pas le voir. M. Feller ne put dormir de toute la nuit. Ses idées s'agitaient tumultueusement sous son foulard écarlate. Il se retournait dans son lit et faisait tinter à chaque seconde le verre et la carafe posés avec sa pipe, son bougeoir et ses lunettes sur la table de nuit à cajou. Ce bruit argentin accompagnait harmonieusement ses pensées. Les actes futurs de sa tutelle intègre lui inspiraient pour lui-même de l'estime par anticipation. Ce n'était pas tout. Il comptait trouver en sa fille un capitaliste docile. Il fonderait enfin sa grande entreprise, le rêve de sa vie. Il mettrait au jour l'enfant de ses veilles, son œuvre, la fiduciaire société de prêt sur gage. Le gouvernement ne manquerait pas d'autoriser une société assise sur une base solide de capitaux. La liste des membres du conseil d'administration, choisie parmi les personnes décorées ou titrées, inspirerait de la confiance au numéraire. À ce moment de son rêve, M. Feller vit passer dans les rideaux de son lit l'ombre terrible du phénix de la garde nationale. Oh, il en sentit au front une sueur froide, sous son triple madras, mais il chassa ce nuage importun. Il contempla de nouveau l'avenir. Il imagina pour la fiduciaire un emblème d'un grand effet, deux mains terminées par des manchettes de dentelle et se tenant l'une l'autre à poignée. Il voyait déjà cette image symbolique imprimée sur les circulaires et les prospectus, gravée sur les billets, traites, bons, chèques, actions, obligations, livres de souche, et sculpté en pierre dans des proportions colossales sur le fronton même de l'immeuble occupé par la fiduciaire dans le voisinage du nouvel opéra. Car la fiduciaire ne manquerait pas d'acheter un terrain dans ce quartier central et d'y bâtir un hôtel. La première pointe de jour passa entre les rideaux de la fenêtre et M. Feller aperçut épars sur les meubles des mémoires non acquittées de bottier et de restaurateur. Le lendemain du dîner chez Bréval, Longuemare, en déjeunant au café, parcourait un journal. Tombé sur une colonne d'information signée « Spectator », pseudonyme qu'il savait être celui de Bouteiller, il fronça les sourcils en découvrant un entrefilet rédigé comme il suit. Encore une originalité internationale qui vient de s'éteindre. M. Martin Aviland, dont les obsèques ont été célébrées hier, lasse dans son magnifique hôtel du boulevard La Tour Maubourg une collection d'un genre particulier, quelques milliers de bouteilles contenant de l'eau de tous les fleuves, rivières, ruisseaux, cours d'eau, fontaines et cascades du monde entier. M. Aviland était aussi remarquable par sa bienfaisance que par ses collections. Sa mort, qui sera vivement ressentie par tous les pauvres du quartier des Invalides, semble due à l'abus de la belladone qu'il employait pour combattre un rhumatisme aigu dont il était affligé. C'est du moins l'opinion des princes de l'art. Nous sommes heureux d'être assez bien informés pour pouvoir rendre à cet événement déjà si douloureux en lui-même ses véritables proportions. Les dernières lignes de cette note le mirent dans une rage violente. Ah, il se promit de couper avec sa cravache la figure de son ami Boutellier. « Je ne sais seulement pas où perche macaque !» s'écria-t-il dans son impatience. Il alla le chercher au bureau du journal à la mode et le rencontra dans le vestibule entre le canard de bronze et le pigeon de marbre rose, niché l'un sur la boîte aux lettres, l'autre sur celle des manuscrits. La mine bonasse et stupéfaite du gros reporter, ouvrant son parapluie sans défiance, oui, il pleuvait, désarma Longuemare, qui se rappelant aussitôt le temps où Boutellier lui volait ses versions dans son pupitre pour les copier à son aise, fut pris d'une sorte d'attendrissement. Boutellier, souriant à sa vue, lui cria « Bon, tu dînes avec moi ce soir, chez Bréval, c'est entendu, je vais installer le grand rabbin. » Longuemare lui barra le chemin, lui mit sous le nez le journal tout froissé et lui dit « Mais que signifie la dernière phrase de ton écho? Qui donc, à ta connaissance, a donné à cet événement des proportions qui ne comportent pas? Qu'a-t-on soupçonné? Et qui a-t-on soupçonné? Réponds !» Bouteiller promena des yeux exactement ronds sur Longuemare et le journal. Puis il répondit avec une évidente candeur « Je vais te dire, mon vieux, j'ai mis ça pour corser l'écho, voilà tout. Et comme c'est mesuré, remarque bien. Je suis piquant, mais je ne compromets personne. C'est du savoir-faire, ça, ainsi. Allez, c'est entendu, ce soir, au Helder. Longuemare, désarmé, haussa les épaules et lui tourna le dos. Secoué par des émotions de diverses natures, il avait les nerfs très irrités. Il tombait dans des violences et dans des attendrissements successifs et se sentait en veine de folie. À n'en pas douter, il aimait Hélène et cet amour commençait à le troubler profondément. Sous l'influence de l'excitation que ce sentiment imprimait à toutes ses facultés, il acheva en une semaine un article pour la Gazette médicale, composa son premier sonnet et s'attacha à l'improviste à une bouquetière de bal public pour laquelle il dépensa en 8 jours sa solde d'un trimestre. Puis l'article, le sonnet et la bouquetière lui semblèrent insipides et fastidieux. Il traîna encore une semaine d'agacement et s'en alla tout droit un beau jour à l'hôtel du boulevard La Tour-Maubourg. Il pouvait, après le temps écoulé, présenter décemment ses compliments de condoléance à la veuve. Quand il revit la grille d'entrée, le perron au fond de la cour, l'antichambre et son grand poêle de faïence, il lui sembla qu'il y avait un siècle qu'il n'avait passé par là. Il était là comme s'il avait vécu plusieurs âges d'homme. Il attendit quelques minutes Hélène dans le salon. Quand elle parut devant lui, grandie et pâlie par ses vêtements noirs, il crut la voir pour la première fois. Ce n'est pas qu'elle fût bien changée. Depuis sa convalescence, malgré ses tortures d'imagination, elle prenait de l'embonpoint et ses joues étaient assez pleines. Mais il éprouvait sans cesse en la voyant une délicieuse sensation de nouveauté. Les yeux d'Hélène avaient, sous les boucles blondes des cheveux abaissés sur le front, un sourire vague et charmant. Elle parla la première. Le rien qu'elle dit le fit tressaillir. Il répondit de travers. Elle, plus maîtresse de ses sens, jouissait du trouble qu'elle inspirait. Il effleura en termes vagues les souvenirs de deuil. Puis, par une pantaisie, il en vint à parler de l'avenir. « Oh, elle n'aimait plus le monde, » disait-elle. Elle lui demanda ce qu'il comptait faire. Oh, il voulait essayer de la clientèle civile. Son père lui donnerait les fonds nécessaires. Elle approuvait. Elle avait à Saint-Germain et dans le parc de Neuilly des amis qui ferait au jeune docteur une clientèle choisie. Elle lui promettait son patronage et s'engageait de la sorte dans son avenir. Elle dit que pour elle, elle ne savait pas ce qu'elle ferait. Elle ajouta, par un délicat mensonge, que la succession de M. Haviland, dont elle n'avait que l'usufruit, grevé de lait, pouvait la laisser bien moins à l'aise qu'on ne croyait. Elle ajouta « Si je deviens une pauvre femme, vous ne me fuirez pas. » Il eut assez de goût pour ne rien répondre. Ils ne se dirent pas un mot d'amour, mais ils n'avaient pas un souffle qui ne fût embrasé. Ils respiraient avec effort, ils se sentaient nager dans un fluide étouffant et délicieux. Elle dit qu'elle avait chaud. Il lui prit la main, qu'il ne pressa qu'à peine et qu'elle ne retira pas. Il ne savait pas ce qu'il faisait et ils auraient voulu tous deux mourir. Mais la conscience des choses revint à Hélène. Elle dégagea sa main. Une ombre passa sur son front. Elle songea un moment et dit « Il y a bien des choses que j'ai faites et que je ne ferai plus. Je vaux mieux que ma vie. » À cette parole qui remet dans leur âme toutes les eaux dormantes du souvenir, René détourna la tête et retint des larmes sous ses paupières. À son tour, elle lui prit la main. Ils entendirent des pas dans l'antichambre. « mon ami, lui dit-elle. » Et sans achever, elle alla quelques pas s'asseoir dans un fauteuil. Monsieur Feller, annoncé par le craquement de ses bottes, fit son entrée et serra avec effusion les mains du docteur. Il rappela les soirées de la rue Neuve des Petits Champs. « Nous vous avons élevé, formé, dit-il à René. Vous êtes notre enfant, et il est le fait que vous avez vu défiler chez moi bien des types curieux. C'était pour vous une école d'observation. » Vous avez donc navigué et vu du pays, comme le pigeon de la fontaine. Ah, la mer! Et il parla de l'immensité, de la poésie de l'océan, et se montra fort ému. Puis il demanda la permission de dépouiller sa correspondance et de faire son courrier. Installé devant la table, il lisait des papiers avec des susurrements ou des grognements qui exprimait son dédain ou son impatience. Donnant à sa personne, à ses papiers, à ses journaux, le plus de volume qui lui était possible, il affectait tour à tour la contention la plus obstinée et le détachement le plus léger. Hélène et René se regardaient en silence et se croyaient seuls au monde. Enfin, M. Feller fit courir sa plume sur quelques feuilles de papier, signa avec fracas, sonna comme chez lui, fit mettre son courrier à la poste et huma l'air à plein poumon. Son humeur avait tourné. Il était bon enfant, sans façon, un peu goguenard. Il proposa une promenade extramuros. Personne n'en saurait rien. D'ailleurs, ce n'était pas une partie de plaisir. Il faut bien dîner quelque part. Ils iraient manger une friture à Meudon. Ils avaient tous trois le goût de ces parties intimes lestement menées. Au bas Meudon, ils entrèrent sous une tonnelle au bord de l'eau. Hélène, pour dénouer les brides de son chapeau, éleva les bras comme deux anses d'amphore par un mouvement plein de grâce dont le spectacle donna à René une minute délicieuse. Les cheveux blonds de la jeune femme étaient collés sur son front et ses yeux brillaient doucement au-dessous. Ils échangèrent un regard si profond et si limpide qu'ils eurent la sensation de se noyer l'un dans l'autre. Monsieur Feller, redevenu important, se rappela des affaires avec de grands soupirs. Il demanda de l'encre du papier et n'obtint à grand peine qu'une fiole vaseuse, une plume rouillée, avec une feuille bleue de batte sur laquelle il mit des chiffres et qu'il fourra ensuite dans sa poche. Puis il demanda brusquement si son jeune ami ne connaissait pas des armateurs à Toulon. Il prononçait avec tant d'ampleur le nom d'armateur qu'il semblait que la phrase eût été dite que pour produire un effet de sonorité, ce qui est bien possible. On dîna. M. Feller exprimait une moitié de citron sur sa friture avec toutes les élégances dont était capable sa main blême, grasse, courte et chargée de bagues. Il contemplait les jeunes gens à travers ses lunettes d'écaille, non sans une secrète envie de les exhorter et de les bénir, comme dans un drame. Devant eux, sur la rivière, un ponton de débarcadère affleurait la berge. Une île étroite et longue leur fermait l'horizon d'un rideau de peupliers. Des canotiers passaient en périssoire, et dans l'île, des femmes en robe claire les appelaient avec des rires argentins. Le couchant s'embrasa, des étincelles tremblaient sur la rivière. puis le ciel et l'eau s'éteignirent. Une brise fraîche s'éleva dans la verdure sombre. René décrocha le châle noir et le mit sur les épaules d'Hélène. M. Feller abondait en récits galants et en recettes de cuisine. S'étant mis inopinément à admirer le paysage, il décerna des louanges à la Providence. Longuemare lui répondit que la nature est le théâtre d'un éternel carnage et que rien n'y vit que par le meurtre. « Oh, vous allez trop loin !» répliqua M. Feller. Mais ils étaient heureux, tous les trois. L'ombre commençait à les envelopper. Ils se seraient longuement oubliés là, si l'homme d'affaires n'eût songé au café de Colmar. Il calcula qu'il était temps d'aller y faire sa partie de billard avec des courtiers et des fermiers d'annonce. « Mes enfants, dit-il en consultant sa montre, non sans un froncement de ses épais sourcils, l'heure me presse, un rendez-vous très important. D'ailleurs, il va pleuvoir. » Le vent s'était élevé. Des nuages couraient furieusement dans le ciel devant une lune pleine et rouge qui semblait emporter en sens contraire. Il cherchait le sentier étroit qui monte au Haut-Meudon et même à la station. Hélène marchait au bras de René. Les clartés incertaines de la nuit les faisaient hésiter. Ils se taisaient. Tout à coup, Hélène frissonna. « J'ai peur, » dit-elle. Un homme en guenilles, grand, maigre, à longs pieds, venait à leur rencontre devant eux. En ôtant son chapeau de paille, il montra un visage maigre, percé de deux grands yeux ternes. Il tendit la main en murmurant une espèce de prière. Hélène se pressa contre René et l'entraîna. « Vous l'avez vu ? » dit-elle. « Il ressemble à... J'ai peur !» René lui-même éprouvait une impression de malaise. Ce mendiant rappelait en effet M. Haviland, et ce qu'il y avait de plus pénible, c'est qu'il le rappelait sous un aspect si morne et si défait, et avec une telle expression d'irrémédiable souffrance, qu'il suggérait la vision affreuse de M. Haviland, non comme il était autrefois, mais tel qu'il devait être maintenant. Ils gravissaient tous trois le sentier bordé de haies et de murs. Les cailloux roulaient sous leurs pieds. Hélène s'arrêta court. Elle fixait les yeux un objet dans l'ombre. René ne voyait devant elle que des touffes d'orties autour d'une borne. Mais certes, la veuve voyait autre chose. Elle poussa un grand cri et tomba à la renverse. M. Feller voulait absolument qu'on la fît asseoir. « Laissez-la étendue, » dit René, penchée sur elle. Elle était roide, inerte. Ses lèvres sales remuaient et un peu d'écume commençait à poindre au coin. Ses yeux sans regard étaient ouverts sur le ciel. Quand elle se ranima, elle ne se rappelait rien, mais elle était lasse. Arrivée à la porte de l'hôtel, supplia son père d'y venir coucher cette nuit. Elle avait peur encore, disait-elle. Elle tendit la main à René, mais une main glacée, crispée, inanimée, et elle le regarda avec une pénétrante expression de découragement et de désespérance.